liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom.
Bonsoir à vous, c'est Supersonic. Ah oui, toujours la tête dans le casque. Pour mieux entendre, mon enfant, pour mieux entendre. Comme de temps en temps, Supersonic sort les machins, pour un hors-série tout en son 3D. Trois dimensions pour le son, une impression d'immersion, mais pour ça il faut que vous portiez un casque ou des oreillettes. C'est le cinquième numéro du genre. Déjà, il y en aura 8 dans l'année, et après la chanson, la musique acoustique, l'électroacoustique entre autres, voilà, la voix. La voix et l'époque, ce soir, rencontre avec deux poètes qui traduisent les mots de l'époque, ceux du quotidien, pour les mettre dans la grande machine poétique en constant renouvellement. Tout à l'heure, nous serons avec la performeuse, auteure, poète, Laurence Vielle, dans les sous-sols de la Maison des Métallos, cette belle salle du quartier de Belleville à Paris. Mais tout de suite, nous sommes avec quelqu'un qui regarde passer les gens. Un poète sonore, Anne-James Chaton. C'est le week-end poésie sur France Culture, depuis hier soir et jusqu'à demain. Salut les androïdes, et bienvenue à vous. Il est là, en vrai, il est déjà à la table, Anne-James Chaton, le premier invité de l'émission de ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, en prélude de quelques performances en trois dimensions. Alors, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, il faut écouter cette émission au casque ou avec des oreillettes pour profiter de ce son immersif, ce son en trois dimensions qu'on va proposer ce soir, qu'on propose de temps en temps dans Supersonic, dans ces hors-séries intitulées Machin Machine, et donc ce soir dédié dans le cadre de ce week-end poétique de France Culture à vous, Anne-James Chaton, et puis à Laurence Vielle, donc tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Mais vous, en premier lieu, vous publiez un livre, Anne-James Chaton, aux éditions Verticales, Elle regarde passer les gens. Vous, le poète sonore, vous sortez un roman. Alors il paraît que c'est pas bien, que les poètes n'aiment pas les romans, non, c'est ça?
C'est ce qu'on m'a dit, oui. Ouais. On se dit surtout pas, il faut pas dire que tu écris un roman, parce que tu risques beaucoup auprès de tous tes amis poètes.
Mais pourquoi?
Je sais pas, c'est comme si, c'est vrai, c'est ressenti dans le monde de la poésie comme une forme de trahison, ce qui est assez étrange.
Une trahison par rapport à quoi?
Par rapport à ce que devrait peut-être, mais alors ça j'aurais même pas la réponse, à ce que devrait défendre ou être la poésie en rapport à ce que serait ou aurait été le roman, des formes qui seraient contradictoires ou opposées l'une à l'autre, ce que je ne perçois pas du tout. Mmh. Puisque moi, je sais d'ailleurs pas si ce livre est un roman ou une épopée ou un très très long poème. Mmh. Je laisserai au lecteur le choix d'en décider.
Oui, on a pu, ceux qui lisent les critiques de livres dans la presse ici ou là ont pu en entendre parler, parce que on en a parlé de ce « Elle regarde passer les gens », y compris aussi sur France Culture. Le principe, l'idée, on glisse d'une figure féminine à l'autre, figures qui sont des figures célèbres, mais auxquels vous retirez en quelque sorte leur célébrité, en tout cas leur patronyme, vous ne citez pas les noms, mais on glisse d'une figure à l'autre, on avance dans le siècle, c'est une visite du XXe siècle à travers certaines mythologies féminines.
Oui, qui sont pris par l'envers. Je les aborde dans leur quotidien, le plus simple, le plus partagé d'une certaine façon. Et au travers de cette gestuelle qu'on partage avec elles, se dessine le ciel au travers de ces 13 femmes. Alors le siècle est un peu au lointain parce qu'il passe au travers de ce filtre d'une vie commune.
Il est lointain, mais ce sont les titres de chapitres quand même.
Ça reste quand même.
C'est la chronologie est là, la conquête de l'espace, le mur de Berlin, la guerre froide. Enfin,
la chronologie est là, oui, mais disons que les grands événements du siècle sont toujours appréhendés par ces vies. Ces vies quotidiennes, ce qui fait que si je prends par exemple la montée du nazisme, quand on traverse la vie de Virginia Woolf, on entend au loin cette montée au travers des voix de Mussolini et de Hitler que Woolf peut écouter à la BBC. Mm-hmm. Et tout le siècle comme ça se déroule, ce qui fait que c'est une histoire. Oui, une histoire à l'envers.
Oui, avec, on l'entend tout de suite quand vous en parlez, la question du son, en fait. Ça peut être soit le bruit de fond de l'histoire, soit véritablement, soit la radio, soit certaines voix qui réapparaissent. Il se trouve qu'il y a une image, on aperçoit une image sur la couverture de « Elle regarde passer les gens », et c'est un disque vinyle avec le bras d'un tourne-disque et un bras un peu à l'ancienne, un peu chromé, comme ça. Pourquoi ?
Parce que c'est une évocation, on en parlait au début de cet entretien, d'où je viens, c'est-à-dire de cette poésie. J'ai travaillé beaucoup des formes de répétition, d'itération dans la poésie, et notamment dans la poésie sonore. Et ces formes-là restent présentes dans « Elle regarde passer les gens », notamment au travers de ce phrasé, qui lui-même, comme vous le disiez, est très sonore, de cette manière, du fait de sa répétition et de cette itération continue, les phrases étant toutes...
Il y a une scansion.
Voilà, c'est la scansion du livre, rappelle mon endroit d'écriture, qui est à la fois un saisissement de l'écrit, mais aussi à un certain moment un saisissement d'autres outils d'écriture, qui sont les écritures sonores.
Le croisement entre la voix, l'écriture et le son, et le corps aussi, on va en parler un tout petit peu plus tard dans l'émission, puisqu'on parle de « Elle regarde passer les gens », de cette scansion, qui est aussi une scansion sonore, et qui est celle de votre propre voix. Je vous propose de tenter la première expérience avec Georges, qui est le nom du micro, qui est le visage, et en même temps le micro de notre dispositif de son en trois dimensions. J'invite chacun aussi à aller voir les vidéos qu'on a mis en ligne, comme ça on vous voit travailler dans notre studio. Mais on vous écoute avec cet extrait et aussi adaptation de « Elle regarde passer les gens », deux figures féminines au moins vont se croiser, on ne dit pas qui, on les reconnaît, peut-être pas toutes, parce qu'il y a aussi des pièges que vous nous tendez. C'est à vous, Van Jenschaton.
Elle est au bord de la piscine, elle se baigne, elle est retirée du monde, elle boit moins, elle a invité quelques amis à dîner, elle leur fait visiter les lieux, elle s'arrête devant la bibliothèque, elle saisit un livre, elle feuillette les lettres à un jeune poète, elle lit les vers de Norman Rustin, elle s'est passionnée pour James Joyce. Elle a dévoré Ulysse. Elle a lu tous les livres de Karen Blixen. Elle a découvert Madame Bovary. Elle est en train de lire Cummings. Elle attrape un sous-verre. Elle exhibe sa photo dédicacée d'Albert Einstein. Elle en est fière. Elle lui a été offerte par Elie Wallach. Elle est fausse. Elle n'en sait rien. Elle est en mars 1962. Elle reçoit un appel de la Fox. Elle doit honorer ses engagements. Elle lit un scénario. Elle n'apprécie pas l'intrigue. Elle est cousue de fil blanc. Elle refuse le projet. Elle est convoquée, elle est en difficulté, elle doit tourner, elle est sous contrat, elle accepte, elle doit préparer le film, elle cherche un endroit calme, elle achète une hacienda, elle est en banlieue de Los Angeles, elle est à Brentwood, elle est sur Helena Drive, elle date de 1929, elle est modeste, elle est confortable, elle dispose de 4 chambres, elle compte 3 salles de bain, elle donne sur un grand jardin, elle comprend une piscine, elle contient un solarium. Elle est située dans un parc de 2 hectares. Elle s'installe avec sa gouvernante. Elle est le 19 mai 1962. Elle s'envole pour New York. Elle se rend à l'anniversaire du président des États-Unis. Elle est au Madison Square Garden. Elle est appelée par le speaker. Elle monte sur l'estrade. Elle est magnifique. Elle est sensuelle. Elle est vêtue d'une robe scintillante. Elle porte un manteau de fourrure. Elle court sur le plateau. Elle se défait de son manteau. Elle le confie au speaker. Elle se tient devant les micros. Elle teste celui de droite. Elle se place devant. Elle le fait tourner. Elle regarde un jardin. Elle porte ses mains en visière. Elle observe la salle. Elle soupire. Elle regarde à court. Elle empoigne le micro. Elle chante Happy Birthday, Mr. President. Elle descend de scène. Elle est conduite dans une arrière-salle. Elle y retrouve les frères Kennedy. Elle offre une montre en or à John. Elle a fait graver l'inscription « Jack with love as always from Marilyn ». Elle est allée trop loin. Elle devient encombrante. Elle rentre à Los Angeles. Elle est en juillet. Elle n'a plus de nouvelles de John. Elle cherche à le joindre. Elle appelle Frank. Elle lui demande d'intercéder. Elle le harcèle. Elle n'obtient pas de réponse. Elle est le 4 août 1962. Elle est chez elle. Elle est dans sa villa. Elle est déprimée. Elle s'isole dans sa chambre. Elle appelle des amis. Elle est fatiguée. Elle prend des médicaments. Elle prend des comprimés. Elle prend du Nolutal. Elle prend une dose. Elle s'endort. Elle a besoin de repos. Elle ne retournera pas au studio. Elle partira en voyage. Elle prend l'avion. Elle atterrit à Rome. Elle est sur la passerelle. Elle aperçoit une meute de journalistes. Elle s'engouffre dans une berline. Elle a rendez-vous au Vatican. Elle porte une longue robe noire. Elle la fait réaliser spécialement. Elle est reçue par le pape. Elle s'entretient avec Jean XXIII. Elle poursuit son périple. Elle atterrit à New Delhi. Elle est au pied de l'Himalaya. Elle appréhende ce voyage. Elle sort de l'avion. Elle est accueillie par Nehru. Elle connaît son histoire personnelle. Elle a étudié l'époque du Raj britannique. Elle l'interroge sur ses séjours en prison. Elle se promène dans les jardins de sa résidence. Elle caresse un panda. Elle nourrit un tigre. Elle assiste au combat d'un cobra et d'une mangouste. Elle est effrayée. Elle se jette dans les bras du Premier ministre. Elle se recueille devant le mausolée de Gandhi. Elle navigue sur le Gange. Elle monte sur un éléphant. Elle visite un zoo. Elle est reçue dans le palais d'un Maharaja.
Elle est très belle.
Elle est couverte de cadeaux.
Elle est très riche.
Elle est vêtue d'un sari de soie. Elle porte un collier d'or et de perles.
Elle expose à la
Jefferson. Elle défile dans les rues. Elle est acclamée par la population.
Elle est divorcée.
Elle est comparée à une déesse.
Elle est fantaisiste.
Elle est assise sur un
intelligente.
Elle prend quelquefois l'apparence d'une lionne.
Elle tourne autour de
elle joue de pouvoir illimité.
Elle apparaît dans la nuit des temps.
Elle est à la maison
de la tempête et des éclairs.
Elle donne une grande réception.
Elle fut armée par les dieux.
Elle recevra ses convives.
Elle acquit un trident de Shiva.
Elle a une prédilection.
Elle obtient un disque de française.
Elle fut conseillée par l'action de France.
Elle partit combattre sa couture
à l'Ishachoura.
Elle les copie à la perfection.
Elle a convaincu André Malraux de traverser l'Atlantique.
Elle terrasse à ses
amis. Elle veut l'impressionner.
Elle
a une faveur à lui demander.
Elle ramène la joie aux
elle souhaiterait exposer la Joconde aux États-Unis.
Elle est la déesse de la guerre et de la
elle
paix.
Obtient l'accord du ministre.
Elle est au service de la vertu.
Elle est aux anges.
Elle détruit.
Elle est à Washington.
Elle prône
elle est à la Maison Blanche.
Elle lutte.
Elle accorde une interview.
Elle invite à la
elle est le 20 octobre 1962. Elle vient d'arriver à Glen Oran. Elle reçoit un appel de John. Elle doit rentrer immédiatement à Washington. Elle sera prise en charge par un hélicoptère. Elle sera conduite à l'abri nucléaire de Camp David. Elle refuse. Elle demeurera auprès de son mari. Elle ne peut le laisser seul pendant la crise. Elle est à la Maison Blanche. Elle est cloîtrée. Elle a interdiction de sortir. Elle est entourée d'agents de sécurité. Elle est calme. Elle garde son sang-froid. Elle veut détendre l'atmosphère. Elle organise un dîner. Elle invite des proches. Elle a convié Lee Estas. Elle reçoit Bobby et Ethel. Elle est optimiste. Elle ne croit pas à la guerre. Elle s'emporte contre l'attitude des Français. Elle fustige leur égoïsme. Elle ne les a jamais trouvés très sympathiques. Elle a été blessée par la position de De Gaulle. Elle croyait la France une alliée. Elle rompt ses liens d'amitié avec Malraux. Elle est le 14 janvier 1963. Elle est attendue à la National Gallery of Art. Elle inaugure une exposition. Elle montre la Joconde à ses compatriotes. Elle en est très fière.
Il arrive à croiser lui-même sa propre voix avec sa propre voix. Oui, bon, on a un peu triché, évidemment, mais ça rentre aussi dans cette écriture, écriture écrite, écriture sonore aussi, qui est la vôtre, Anne James Chaton, poète sonore. Vous avez partagé avec nous cette forme d'adaptation, donc en trois dimensions, pour l'occasion.
De quel regard ce qui m'a...
Pardon ?
Ce qui m'a surpris, parce que je connaissais pas du tout cet outil, c'est la manière dont moi je... On en parlera sur une autre pièce qu'on a travaillée aujourd'hui, notamment sur la question des microphones. Pour moi, le Georges, ou Mélanie, puisqu'on parle de... Elle regarde passer les gens.
Ah oui.
On va rebaptiser le micro. Pour moi, le micro, et là c'est très vrai de ce que j'ai essayé, c'est véritablement un outil d'écriture.
Vous pensez même que l'idée de spatialisation comme ça, comme ce qu'on essaye ce soir, puisse vous donner des envies d'écriture, de mise en place dans votre travail de
poète? Oui, puisque moi, mon outil d'écriture, c'est le stylo et le micro. Alors si j'écrivais avec un stylo plume ou un stylo bille, c'est différent. Si j'écris avec un ordinateur ou une machine à écrire, c'est différent. Et si j'écris avec un chour ou avec Mélanie, ce sera également différent. Mmh. Et c'est... Voilà, ça ouvre des perspectives d'écriture.
Le choc, le déclic, quelque chose d'essentiel pour vous, ça a été le moment où vous avez vu une performance, une poésie en action de Bernard Heitzig, c'est ça? C'est ce jour-là où vous avez dit, voilà ce que je cherchais dans mon écriture. Il y avait d'abord l'écriture et ensuite tout d'un coup, il y a eu cet exemple-là.
Oui, il y avait une bibliothèque notamment composé de toutes les grandes avant-gardes du XXe, mais j'étais très 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 attaché au futurisme russe. Après, il y a l'électrice, il y a les autres futuristes, il y a tous ces matériaux-là. Il y avait un début d'écriture, et puis ensuite, à un moment, la rencontre avec la poésie-action, c'est-à-dire ce temps où l'écrit, la voix, le corps décident de la forme. Et c'est vrai que, je sais plus, ça devait être en 1996 ou 97, c'est la première fois où je suis mis en présence d'un objet de poésie sonore, et d'un objet assez extraordinaire, qui est le Vaduz de Banaradzic.
Tout autour de Vaduz.
Tout autour de Vaduz. Ouais. Et il est vrai que voilà, cette rencontre physique, cette épreuve de la pièce d'Aïtchik m'a permis d'affirmer des choses dans ma propre écriture.
De les affirmer, c'est-à-dire vous en étiez où à ce moment-là?
Je n'étais pas dans une corrélation juste entre la forme écrite et la forme sonore et actée. Et je crois que c'est cette rencontre qui m'a permis d'aller chercher à certains endroits du sonore et aussi d'aller chercher à certains endroits du corps et de la voix, c'est-à-dire comment la voix allait porter ses écritures et comment ces écritures allaient être réécrites par la voix. C'est cette rencontre qui a permis de donner les bonnes orientations de recherche, puisque les premières choses que j'ai publiées sont parues 4-5 années plus tard.
Et 96, en ce moment-là, c'est à Besançon ?
C'est à Besançon, oui. Ouais. C'est dans ma ville natale, de Besançon.
Vous étiez déjà dans cette matière, dans votre travail aujourd'hui, ce que vous faites, vous travaillez beaucoup sur des matières, on va dire, non nobles, très quotidiennes. Ce que vous disiez d'ailleurs à propos des regards de passer les gens, c'est le quotidien de ces femmes-là qui est votre matière d'écriture. Toute matière écrite peut se retrouver dans certains de vos textes, et notamment ensuite, j'ai l'impression que vous vous débarrassez du spectaculaire en particulier. Donc c'est le banal et le non-spectaculaire qui est aussi introduit dans ce que c'est que la poésie.
Oui,
vous étiez déjà dans cette démarche-là ?
Oui, j'étais dans cette accumulation de ma propre matière d'écriture, et notamment de tous ces écrits du quotidien que chacun dans son environnement trouve et lit en permanence de cette manière. J'étais à la recherche de cette matière écrite qui nous était la plus commune. Et au bout d'un moment, je me suis dit effectivement, une liste de courses en définitive, c'est peut-être ce qui est le plus lu, et ce qui est aussi lu d'une façon très 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 évidente par chacun. Parce que vous avez pu faire l'expérience que, faisant vos courses, vous vous retrouvez avec une liste qui peut faire 20 cm de long, et vous jetez un œil dessus et vous l'avez lu. Donc c'est ce type d'écriture-là qui m'interrogeait et dont je voulais qu'elle puisse entrer dans un champ qui serait celui de la poésie et de la poésie sonore en particulier.
James Chaton, qu'est-ce que vous avez avec la célébrité ? La dernière fois qu'on s'était parlé à cette antenne, il était déjà question de vie des hommes illustres. Là, elle regarde passer les gens, ce sont des femmes illustres. Et en même temps, vous retirez ce qui fait cette célébrité-là. Donc, et en même temps, quand vous allez voir des hommes illustres, il s'agit de Jésus, par exemple. Enfin, vous allez des gens plutôt célèbres, presque aussi célèbres que les Beatles. Donc voilà, vous allez les chercher.
Alors, je pense que ça provient de l'articulation de ces matières d'écriture qui m'interrogeaient, et puis d'un autre endroit de ma qui m'a toujours beaucoup fait travailler, c'est la peinture. Et c'est la forme du portrait. Et je suis allé chercher dans certains grands textes de la littérature, notamment dans La vie des hommes illustres, comment j'allais pouvoir fabriquer à partir de ces matériaux-là. Et la forme du portrait me poursuit depuis toujours, jusqu'à Elle regarde pas passer les gens, qui est une forme de, qui est à la fois un portrait du siècle et aussi chaque fois un portrait de chacune de ces femmes.
Eh bien, on va vous écouter dans ce dispositif de son en trois dimensions ce soir dans Supersonic. Vie de Jésus, d'après Ernest Renan.
J.C. a vu, bu, connu,
son père Joseph,
esprit des Juifs, des Phéniciens, des Syriens, des Arabes et même des Grecs.
Vu, bu, connu, entendu, parcouru,
Jacques et des cousins germains.
Connu, entendu, parcouru,
dans les rues de Saint-Jean-Baptiste,
entendu, parcouru,
les montagnes moribondes,
connu, entendu, parcouru,
la tribu des
bu, connu, entendu, parcouru,
le hameau de Bédouin,
les psaumes, entendu, parcouru,
la poésie de
Galilée,
entendu, parcouru, de Sébastien,
bu, connu,
le ciel d'azur,
entendu, parcouru,
et les hautes plaines à l'horizon,
bu,
connu, entendu, parcouru, vu, bu, connu, entendu, parcouru,
le légat impérial de Syrie, Coponius, Marcus Antonius, Annius Rufus, Valerius Gracchus, Pontius Pilatus, Judas de Gaulonie, fils de Sarifée, Matthias, fils de Margalote, les Samaritains, les Zélotes, des assassins pieux et des thaumaturges.
Entendu, parcouru, de grandes villes, de petites villes et de gros villages.
Entendu, parcouru,
le lac de Tibériade.
Entendu, parcouru,
le lac de Tibériade.
Connu,
des grosses
entendu,
fermes,
parcouru,
des vignes et des figuiers,
connu,
des jardins,
entendu, parcouru,
des massifs de pommiers,
vu,
de noyers,
connu,
de grenadiers.
Entendu, parcouru, vu,
un joli chemin,
vu, connu, entendu, parcouru,
des petites rivières d'eau salée,
connu, entendu, parcouru,
des rivières petites, vu, l'embouchure du Jourdain,
entendu, parcouru,
vu, et un ensemble de ruines assez monumentales,
vu, bu, connu, entendu, parcouru,
vu, bu,
connu, entendu, parcouru, vu, bu, connu,
un cortège de paranymphes,
vu,
dans les
familles,
les sages-femmes, les esséniens, le procurateur Coponius,
ménage, Éléazar,
des Romains, des infidèles, la naïve Soulamite, l'humble cananéenne, la passionnée
Madame. Dans les rues de
Pierre et de Jonas, Simon et
Zadie, Jacques,
Jean, Salomé,
Marie de Magdala, Jeanne,
Mathieu,
Suzanne, Philippe de
connu,
Bethsaïde,
entendu
Nathanaël, fils de Tolmaï,
bu, connu, entendu, parcouru,
à Damas,
vu, un affreux connu, entendu, parcouru,
à Croix-des-Paniers,
les nombreuses statues
connu,
entendu, parcouru,
vu,
bu, connu, entendu, parcouru,
vu,
bu, connu, entendu, parcouru, vu, bu, connu, entendu, parcouru, vu, bu, connu, entendu, parcouru,
vu,
bu, connu, entendu, parcouru,
Jean,
Mathieu, vu, connu, entendu, parcouru, vu, bu, connu, entendu, parcouru, vu, bu, connu, entendu, parcouru,
vu, bu,
connu, entendu, parcouru, vu, bu, connu, entendu, parcouru, vu, bu, connu, entendu, parcouru,
vu,
bu, connu, entendu, parcouru, vu, bu, connu, entendu, parcouru,
vu,
connu, entendu, parcouru,
vu,
bu, connu, entendu, parcouru,
vu,
bu, connu, entendu, parcouru,
vu,
bu, connu, entendu, parcouru, entendu, parcouru, vu, bu, connu, 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 entendu, parcouru,
vu,
bu, connu, entendu, parcouru,
vu,
bu, connu, entendu, parcouru, vu, bu, connu, entendu, parcouru,
vu,
connu, entendu, parcouru.
Dans les rues de Jérusalem,
les dentistes,
les dévots, les hommes fermes, les adversaires, petites têtes,
les astrologues chaldéens,
les
juifs
orthodoxes,
les adeptes
primitifs, les juifs parlant grec, les gens d'origine païenne convertis au judaïsme.
Une théorie apocalyptique et des utopies de son temps.
Un orateur, un casuiste, un savant,
des fonctionnaires
romains,
des
séducteurs,
des héros
soviétiques.
Entendu, parcouru, entendu, parcouru, vu, bu, connu, entendu, parcouru,
dans les rues de l'enclos de
Bethléem,
le monde est choisi, ça revient à l'auteur et le sang de l'auteur.
Vous écoutez Machin Machine, le hors-série en son 3D de Supersonic sur France Culture. Écoutez donc au casque ou avec vos oreillettes pour profiter de l'immersion totale dans le son.
Le 9 mai 1502 départ de Nord, 36 degrés, 32 minutes, 1 seconde. Ouest, 6 degrés, 17 minutes, 58 secondes. Le 20 mai, relâche dans l'île Nord, 28 degrés, 0 minutes, 0 secondes. Ouest, 15 degrés, 30 minutes, 0 secondes. Le 15 juin, arrivé en vue des îles sud, 17 degrés, 30 minutes, 0 secondes, ouest, 149 degrés, 30 minutes, 0 secondes, et de l'île nord, 14 degrés, 40 minutes, 0 secondes, ouest, 61 degrés, 0 minutes, 0 secondes, passage en vue de l'île nord, 15 degrés, 30 minutes, 0 secondes, ouest, 61 degrés, 20 minutes, 0 secondes, et de l'île nord, 18 degrés, 14 minutes, 57 secondes, ouest, 66 degrés, 30 minutes, 3 secondes. Le 29 juin, arrivé dans l'île nord, 18 degrés, 28 minutes, 0 secondes, ouest, 69 degrés, 54 minutes, 0 secondes. Le 14 juillet, en vue de l'île nord, 18 degrés, 15 minutes, 0 secondes, ouest, 67 degrés, 30 minutes, 0 secondes. Grand courant aux environs des îles nord, 20 degrés, 50 minutes, 0 secondes, ouest, 78 degrés, 55 minutes, 0 secondes. Pirou dans la direction de l'est, 15 sud-ouest. Après 60 jours et 60 lieues, arrivé en vue des côtes de l'île nord, 21 degrés, 30 minutes, 0 secondes, ouest, 80 degrés, 0 minutes, 0 secondes. Le 30 juillet, découverte de l'île Nord, 16 degrés, 30 minutes, 0 secondes, ouest, 85 degrés, 55 minutes, 0 secondes. Le 14 août, touche le cap Nord, 16 degrés, 1 minute, 0 secondes, ouest, 86 degrés, 1 minute, 0 secondes. Exploration de la région Nord, 15 degrés, 55 minutes, 0 secondes, ouest, 86 degrés, 0 minutes, 0 secondes. Et du golfe Nord, 8 degrés, 25 minutes, 0 secondes, ouest, 76 degrés, 53 minutes, 0 secondes. Le 14 septembre, double cap nord, 15 degrés, 0 minutes, 0 secondes, ouest, 83 degrés, 9 minutes, 0 secondes, et suit les côtes nord, 15 degrés, 0 minutes, 0 secondes, ouest, 86 degrés, 30 minutes, 0 secondes, nord, 13 degrés, 0 minutes, 0 secondes, ouest, 83 degrés, 45 minutes, 0 secondes.
Well, Captain Harding, aren't you ready to dance with the devil now?
Le 25 septembre, arrêt dans la petite île nord, 10 degrés, 0 minutes, 0 secondes, ouest, 83 degrés, 0 minutes, 0 secondes. Le 5 octobre, relève de la baie nord, 9 degrés, 20 minutes, 0 secondes, ouest, 82 degrés, 18 minutes, 0 secondes, et départ pour le village nord, 10 degrés, 0 minutes, 0 secondes, ouest, 83 degrés, 2 minutes, 0 secondes. Le 15 octobre, longe la côte boisée de Nain, 9 degrés, 0 minute, 0 seconde, ouest, 80 degrés, 0 minute, 0 seconde. Le 26 novembre, arrivé dans le port, nord, 9 degrés, 33 minutes, 0 secondes, ouest, 79 degrés, 9 minutes, 0 secondes. Tentative de sortie du port, puis après 350 pieds, retour à la rivière, nord, 9 degrés, 0 minutes, 0 secondes, ouest, 80 degrés, 0 minutes, 0 secondes. Le jour de l'épiphanie de l'année 1530, virage en bouchon de la rivière, 9 degrés, 6 minutes, 35 secondes, ouest, 69 degrés, 59 minutes, 25 secondes. Le jour de Pâques, départ de Nord, 9 degrés, 6 minutes, 35 secondes, ouest, 79 degrés, 36 minutes, 25 secondes, en direction de Nord, 9 degrés, 33 minutes, 0 secondes, ouest, 80 degrés, 40 minutes, 0 secondes. Après 7000 miles, passage devant le port, Nord, 9 degrés, 33 minutes, 0 secondes, ouest, 79 degrés, 9 minutes, 0 secondes. Le 1er mai, départ en direction de Nord, 18 degrés, 28 minutes, 0 secondes. Ouest, 69 degrés, 54 minutes, 0 secondes. Le 23 juin, brouille dans la baie Nord, 18 degrés, 26 minutes, 0 secondes. Ouest, 67 degrés, 12 minutes, 0 secondes. Le 24 juin 1504, départ de l'île Nord, 18 degrés, 15 minutes, 0 secondes. Ouest, 67 degrés, 30 minutes, 0 secondes. En direction de Nord, 18 degrés, 28 minutes, 0 secondes. Ouest, 69 degrés, 54 minutes, 0 secondes. Le 12 septembre 1504, on arrive au fond Nord, 48 degrés, 41 minutes, 27 secondes. Est, 9 degrés, 8 minutes, 26 secondes.
Fortunately, the ship that will carry us all into safety is already waiting for us.
Le 7 novembre, l'amiral entre dans le port nord, 36 degrés, 47 minutes, 0 secondes. Ouest, 6 degrés, 21 minutes, 0 secondes.
De Christophe Colomb d'après Jules Verne. Voilà la troisième et dernière performance immersive d'Anne James Chaton ce soir dans Supersonic. Merci beaucoup d'être passé par là et d'avoir partagé avec nous cette expérience. Je regarde, non, oui, c'est elle qui regarde. Je rappelle, elle regarde passer les gens votre livre qui est paru chez Vertical, Anne James Chaton, du 14 au 19 mars. Donc bientôt vous êtes au Québec, vous êtes à la Maison de la littérature au Québec. Il y a aussi des journées autour de l'œuvre de Bernard Heitzig. Vous y ferez non pas des masterclass, mais des classes de maîtres, c'est ça qu'on dit ? C'est comme ça qu'on dit en québécois. Et vous serez le 29 mars, donc à la fin du mois, à la librairie Caribde à Paris, rue de Charenton, évidemment. Mais les liens qui vont bien pour pouvoir vous suivre et suivre vos activités, Anne James Chaton, sur le site de Supersonic sur franceculture.fr. Et voilà déjà la deuxième partie de Supersonic qui s'annonce. Machin machine, gardez votre casque sur la tête et vos oreillettes pour continuer dans le son 3D immersif. On est cette fois avec Laurence Vielle, poète, auteur et comédienne belge, qui est actuellement régulièrement en résidence à la Maison des Métallos à Paris. C'est là qu'on lui a rendu visite il y a quelques jours. Elle travaille actuellement sur la figure de Théodore Monod, figurez-vous, c'est ça sa matière poétique en ce moment. Elle a convié, on a convié avec elle pour commencer la rencontre quelques enfants volontaires qui passaient par là, des enfants du centre de loisirs de Belleville, juste à côté de la Maison des Métallos. Théo Girard, contrebassiste, est là aussi.
Théo, Théo, de toute façon, c'est un homme qui veut pas être dépendant de quelqu'un. Il a compté que sur lui-même et c'est pas maintenant qu'il va changer. Théo, de toute façon, c'est un homme qui veut pas être dépendant de quelqu'un. Il a compté que sur lui-même et c'est pas maintenant qu'il va changer. Théo, de toute façon, c'est un homme qui veut pas être dépendant de quelqu'un. Il a compté que sur lui-même et c'est pas maintenant qu'il va changer. Théo, de toute façon, c'est un man. Un man qui veut pas être dépendant de quelqu'un. Il a compté que sur lui-même et c'est pas maintenant, ni tenu, qu'il va changer. Il va pas changer maintenant, Théo. Il a hâte de compter que sur lui-même, Théo. Théo, de toute façon, c'est un homme qui veut pas. Dépendant de quelqu'un, Théo, he will need, he will need, and this need, this need, nu, Théo. De toute façon, il va pas changer, pas changer, pas changer. Théo, 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 c'est un homme. Être dépendant, il a compté Théo comme sur lui-même, afhankelijk op zichzelf, Théo. Il n'est d'orival, il va pas changer, pas changer. Le rendre, Théo, 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 Théo.
Voilà, c'était Théo, Laurence Vielle et Théo Girard avec les enfants du centre de loisirs de Belleville à Paris, qui étaient de passage. La terre tourne.
La terre tourne. La terre tourne. La terre tourne, et c'est arrivé, ça arrivait, ça arrivait comme ça, c'est arrivé, c'est tout à coup que j'ai senti la terre, que j'ai senti la terre, que j'ai senti la terre, que je l'ai senti tourner, que je tournais, que je tournais, que je tournais, oh oui, que je tournais avec elle. Je me suis senti rouler avec elle comme une bille, comme une bille, comme une bille autour du soleil. Et tchac, les yeux ouverts ou fermés, je me suis senti collé à elle. C'est en arrête, c'est pas en marche, faut que je me fige, faut que je me fige pour partir avec elle. Les pieds collés au sol, j'écoute battre mon cœur et tout à coup, je bats avec elle et je tourne, 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 je tourne autour du soleil et je vois que c'est de la terre que vient le monde, que tout surgit et glaise, 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 il en glaise le paradis, hé, hé, la glaise, hé, 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 la glaise, hé, la glaise. Avant hier, la terre était toute plate, au bout, tu tombais dans l'espace, hier, le soleil tournait autour d'elle et aujourd'hui, je tourne avec elle et je cavale, je cavale, je cavale, je cavale grande, grande cavalcade autour du soleil. Et ça arrivait, ça arrivait, ça arrivait, ça arrivait comme ça, ça arrivait, c'est tout à coup que j'ai senti la terre, que j'ai senti la terre, que je l'ai senti tourner, que je tournais, que je tournais, que je tournais, oh oui, que je tournais avec elle. Et je me suis senti rouler avec elle, comme une bille, comme une bille, comme une bille, autour du soleil. Tchac!
Implosion.
C'était 2 mois avant l'implosion des tours. On est allé filmer dans chaque appartement de la tour Pressoff. Par les fenêtres décharnées, on voyait la tour Ravel. Tous les étages étaient vidés. Les premiers 6 étages complètement vidés. Pour l'implosion, ils étaient préparés. Les murs cassés, dans un tissu tout enveloppé. C'est une histoire de poussière. Ils avaient détruit plein de murs pour faiblir le bâtiment. C'était magnifique, comme une œuvre de cristaux. Je courais d'une pièce à l'autre à essayer de trouver des objets dans une situation que je trouvais émouvante. J'ai ramené des échantillons de plein de choses différentes. Il y avait des appartements très bourgeois, très soignés. L'appartement dans lequel il y avait la chaise blanche, il y avait aussi un lit. Les squatteurs s'étaient installés. Tout le plafond était noir cramé. On aurait dit un tableau. Il y en avait des appartements complètement vidés, plus rien, tout arraché. Le corset de femme, ça vient de l'appartement d'une vieille dame. Il y avait encore ses pantoufles et la robe de chambre accrochée à une tringle. Tout était la même, sa nourriture. On avait juste déplacé la vieille dame dans une maison de retraite. Il y avait une cuisine dans laquelle on est tombé. Le plan de travail était couvert de jouets. Pourquoi dans une cuisine, tous les jouets sont-ils restés sur le comptoir entassé? Et une photo comme ça, une femme fleur à la bouche dans son salon, elle en jette, non? Ça raconte vraiment les gens qui habitaient là. Le sac rouge, il était posé sur une chaise dans un appartement. Une chaise et le sac à main rouge vif comme un cœur au milieu du chaos. Des très très belles couleurs. On pouvait voir dans plusieurs appartements à la fois. Des trucs fleuris et puis la pièce suivante, un papier peint avec des joueurs de football américain. Joyeux Noël, je l'ai trouvé posé sur un matelas. La poupée, elle était assise à côté d'un tourne-disque. Les tambours en haut d'une armoire des années 60 en bois verni posé dessus. La passoire rouge, je ne me souviens plus. Le saladier rose rongé par un chien. Le casque de natation. Le petit camion de pompier, c'était dans une entrée sur une petite bibliothèque à moitié en équilibre. La chouette à glaçons et l'énorme bobine rose. Elles étaient posées ensemble juste comme ça dans une cuisine. Ça, c'était dans l'appartement plus soigné. Il y avait un petit lustre en faux baccarat. La perruque, le ballon, le roller, les fleurs en plastique, les pluches. La petite sorcière avec son balai toujours enfermé dans le plastique. C'était suspendu sur une porte d'entrée à l'arrière. La tasse, la boîte au sans-crayon, les chaussoirs, la forme en plastique pour les petits pâtés de sable, les trois mousquetaires de Dumas. Il y avait un appartement avec plein de livres. On allait trois jours dans la tour, deux ou trois fois. Et la photo de la femme, c'est ma maman. Dimonki, l'américain. À Paris depuis 20 ans. Je voulais signer tous les objets avec quelque chose de personnel à moi. Ma mère, à son mariage aux USA, elle a demandé que tout soit rose, noir et blanc. Et quand j'ai vu l'appartement tout vide avec les murs rose, noir et blanc, j'ai posé dessus la photo de ma mère. Faut jouer un peu avec tout ça, faut se connecter. Et je me suis sentie appartenir un peu à ce grand bâtiment de la Courneuve qui allait imploser. Ma mère, elle m'a donné l'amour de la maison, la générosité. Alors je l'ai posée là pour la remercier. Déposer un peu de mon amour personnel. Moi, j'ai abandonné mon pays il y a presque 20 ans. De plus en plus, je répare des choses très difficiles pour être en paix avec mes origines. Tous ceux qui sont plus là, tu rentres dans leur espace très intime, alors moi, l'Américain, j'y ai posé un peu de mon intimité.
Laurence Vielle, poète, comédienne et auteur, et Théo Girard, contrebassiste, sont dans Machin Machine et dans le week-end de poésie de France Culture. On les a enregistrés à la Maison des Métallos. Écoutez-les au casque ou avec vos oreillettes pour profiter du son immersif. Réécoutez-les aussi, pourquoi pas. Le son immersif, le son 3D, une technologie qu'on leur a donc proposé d'essayer, vous l'avez entendu. Laurence Vielle est de temps en temps à Paris pour une résidence, comme on dit, donc une résidence à la Maison des Métallos. Et ça lui a permis de creuser une petite obsession personnelle. Et donc?
Et donc j'ai choisi de travailler autour de Théodore Monod, qui est quelqu'un qui habite mes pensées depuis pas mal d'années. Et comme j'habite plutôt en Belgique, au plat pays, et je me suis dit, tiens, si je suis à Paris, c'est l'occasion d'aller rencontrer des gens qui l'ont connu, de mener un peu les enquêtes, comme j'aime les faire, des documentaires un peu poétiques où je vais à la rencontre comme ça de gens, j'interroge, je retranscris les paroles, et puis j'en refais de la matière à dire. Et alors, je suis en compagnie d'un musicien qui n'est pas Théo qui m'accompagne aujourd'hui, puisque Théo, je l'ai rencontré hier, enfin Théo, pas Théo Monod, mais Théo Girard, et c'est Vincent Granger qui fait cette résidence, qui est clarinettiste, qui m'accompagne. Donc c'est un projet complètement en lien avec la Maison des Métallos.
C'est une résidence au long cours, parce que ça a commencé en septembre, ça dure 9 mois en tout, c'est ça?
Ça termine en avril.
Voilà.
Et en avril, donc, je présenterai ce travail autour de Théodore Monod, mais aussi tout ce qui s'est passé avec plein de... Ben, on a travaillé avec le lycée Théodore Monod de Noisy-le-Sec, avec le collège Beaumarchais, Emmaüs, rue Louvel, le foyer Catherine Bousse, le passage, quelques habitants du foyer Bisson, des habitants du quartier, un restaurateur qui est chanteur d'opéra, la pharmacienne à côté avec qui j'aime bien parler, des tricoteuses, un club de tricoteuses. Et j'en vais en mettre certains dans le spectacle, peut-être ils seront sur scène ou dans la salle, et puis d'autres choses qui seront plus de la matière inventée avec le musicien, voilà.
Mais ce qu'on comprend, c'est qu'à la fois, il y a un objet, un sujet de la résidence qui est ce travail autour de Théodore Monod, mais une vraie enquête qui vous amène à discuter, à rencontrer, à aller au contact de plein de gens, notamment dans ce quartier autour de la Maison des Métallos. On est à Belleville, à Paris. Et ça, finalement, c'est ce que vous faites dans votre travail de poète depuis longtemps. C'est d'utiliser, d'aller chercher les mots des autres.
Oui, c'est ça. Je suis passionnée par les mots des autres. Donc, si, il faut quand même que je dise, donc, dans ceux qui ont connu Théodore Monod, parce que c'est ça qui est assez passionnant, c'est que, comme il est mort il n'y a pas très longtemps, il y a des tas de gens qui l'ont connu. Donc, il y a son fils Ambroise Monod, il y a Brigitte Zanda, une spécialiste en météorites. Il y a José Maribel qui tient un espace, la reine de Saba, qui a fait une expédition avec lui au Yémen. Il y a Jean-Claude Hureau, un scientifique. Isabelle Jarry, le voisin de Palier, un ornithologue qu'on a rencontré sur l'île Saint-Louis, là où habitait Théodore. Enfin, plein de personnes comme ça que j'ai cette chance de rencontrer qui font que j'ai l'impression parfois que Théodore est tout proche de moi, qu'il est pas, qu'il marche à côté. Puis je recopie vraiment ce qu'il me raconte, toutes ces personnes et comment elles parlent. Et puis les gens de ce quartier, et ça fait de la matière que je peux moi-même me mettre à dire en la réorchestrant un peu. Et ce sera ça qu'on a fait hier avec Théo, déjà un petit peu à l'atelier du plateau. Et puis qu'on va faire ici à la Maison des Métallos au mois d'avril.
Juste, comment définir Théodore Monod pour qui ne le connaîtrait pas ou n'aurait pas cette figure et ce visage en tête?
Alors Théodore, c'est un scientifique qui est né en 1902, qui a quitté la Terre en 2000, et qui était un scientifique, et qui aimait surtout marcher dans le désert à la recherche de il inventoriait les plantes du désert, mais j'ai une liste là, de tout ce qui... Il était spécialiste des poissons, il connaissait les astres, l'histoire, la linguistique, l'archéologie, c'était devenu une espèce d'extraordinaire. Il avait une science incroyable sur des tas de choses et toujours une science aussi de terrain, parce que c'était un collecteur, un glaneur de débris du monde, de petites choses, tout l'émerveillait et tout était sujet de curiosité. Et donc les gens qu'il rencontrait sur son chemin lui donnaient des pistes pour aller à la recherche d'un arbre, d'une plante, d'une météorite, du ver libique. Voilà, c'était un chemin comme ça où tout pouvait faire signe et où il avait besoin de tout voir pour savoir.
Enquête de Théodore Monod, puis ça permet des rencontres, on l'a compris, et notamment la rencontre avec Théo Girard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous, au moment où on enregistre cette discussion, là, ça fait grosso modo 24 heures que vous connaissez Laurence Vielle et Théo Girard.
C'est ça, on s'est rencontrés il y a un peu moins de 24 heures, pas très loin d'ici.
À quelle occasion?
À l'occasion d'une soirée autour de Théodore Monod, où Laurence s'était conviée. L'idée, c'était de se rencontrer autour de textes dont vient de parler Laurence.
Donc, de manière un peu impromptue, donc beaucoup d'improvisé, d'impro.
Improvisé, impromptu, ouais, tout à fait.
Et dans le genre impromptu, il y a aussi ce qu'on a commencé à écouter, c'est-à-dire ce duo que vous avez fait là pour nous, dans ce studio de la Maison des Métallos, autour de notre... tête, micro-visage, celle de Georges, le micro du son immersif, du son en trois dimensions. C'est la première fois que vous avez pratiqué ce genre de choses, Théo?
Moi, ça m'est arrivé une fois de rencontrer ça lors d'un concert sous casque, donc voilà, d'immerger tout le public dans cette ambiance-là, en mettant des micros sur les oreilles d'une danseuse. Mm-hmm. Et donc de faire voyager les gens, et nous aussi, les musiciens, par ce système-là. Mais là, c'était une redécouverte.
Mmh, mmh. Et comment vous faut s'apprivoiser l'un l'autre et en même temps prendre les oreilles de l'auditeur en compte encore plus que d'habitude.
C'est ça. On s'est un peu servi du micro pour comme d'un lien à un moment donné, de tourner autour, de continuer de garder le contact entre nous et d'avoir finalement l'auditeur en ligne de mire un peu tout le temps, quoi. Mmh. Ouais.
Se représenter, vous deux, tournant parfois autour de cette tête-là, de cette tête qui est posée sur un pied de micro. Théo, vous avez même posé des roulettes sur votre contrebasse.
C'est ça, c'est marrant de jouer avec la contrainte. Et du coup, là, les roulettes qui me permettent de transporter mon instrument dans la rue m'ont permis de tourner autour de Georges. Et donc autour de vous, auditeurs, pour donner le mouvement, faire tourner la tête.
Et on est dans la continuité de votre travail poétique, Laurence Vielle, puisque le fait d'utiliser les mots des autres de les emprunter, on va dire, pour en faire votre création. Là, les mots des autres viennent directement dans leur oreille. C'est un peu ça.
Oui, c'est ça. La Terre tourne, c'est quelqu'un qui s'appelle Baudouin de Jarre, qui travaille beaucoup aussi avec le son, la musique à Bruxelles, qui m'avait raconté qu'un jour, il avait senti la Terre tourner. Et puis, Monty, l'Américain, c'est un homme qui habite à la Courneuve et qui travaille au moulin Févon. Et c'est un artiste. Et puis lui, il a vraiment fait tout un travail sur l'implosion des tours. Ouais, donc c'était bien de redonner la parole comme ça. Ouais. Et puis ouais, c'est ce qui est très intéressant aussi avec le travail ici à la Maison des Métallos, c'est que ça me permet aussi vraiment de déployer oui, tout ce travail poétique avec les musiciens, avec le quartier de façon très vivante. Donc par exemple, le week-end du 19 et 20 mars sera aussi un week-end que autour de toute la poésie, en invitant des poètes, des musiciens, des... Ouais, toujours, et les habitants avec qui je travaille, donc toujours cette espèce de travail qui mêle musique, parole des autres, puis comment ça se rythme, comment ça se redit, et l'oralité de la poésie, ouais, j'aime ça.
D'ailleurs, tout à l'heure, on a eu la visite d'enfants qui sont en CE1, CE2, CM1, et qui sont des enfants du centre de loisirs de Belleville. C'était un peu le hasard, ils étaient là, mais ça vous va bien, j'ai l'impression de profiter du moment de la rencontre et de faire quelque chose ensemble.
Ah, vous avez été plus rapide que moi. Hein. Vous avez vu les enfants, vous avez fait « Oh, les enfants, hop !» Ils étaient embarqués dans la cave.
Dans la cave, c'est... le studio en sous-sol.
Dans le studio en sous-sol, oui, parce qu'on est vraiment dans... Ouais. Ah oui, j'ai trouvé ça super que ces enfants viennent et puis disent comme ça des mots qui font partie de ces poèmes. Et puis, ouais, moi, c'est bien. C'est forcément intéressant d'avoir le rythme de ces enfants qui va arriver dans la matière. Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler les prochaine date, donc
à la Maison des Métallos, c'est le 19 et le 20 mars, donc qu'on peut retrouver sur le site des Métallos. Et puis après, il y aura dans un café du coin, il y aura le 23 mars au soir. Et puis après, ce sera le 1er et le 2 avril. Et le 2 avril, il y aura aussi, avant la représentation du soir sur Théodore Monod, il y aura une promenade botanique de sa maison de l'île Saint-Louis jusqu'ici, avec une femme qui s'appelle Frédéric Soulard, qui va guetter les plantes qui résistent dans la ville et qui poussent entre les pavés. Elle va leur donner un nom chaque fois. Donc ce sera une espèce de balade avec de la musique, des textes et de la botanique. Et puis voilà, toujours Vincent Granger qui m'accompagne et des habitants dans toutes ces balades.
Et vous, Théo Girard, on peut vous retrouver sur quelle scène?
On peut me retrouver le 6 mars sur une très jolie péniche à Joinville-le-Pont, voilà, qui s'appelle le Lapin Vert. C'est une péniche qui se prend pour un lapin.
Très bien, c'est un beau programme, c'est demain.
Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux, Laurence Viel et Théo Girard.
Merci.
Merci à vous pour cette expérience.
Il pleut sur les longs toits de tuiles, il pleut sur les fleurs du pommier, il pleut une pluie si tranquille qu'on entend les jardins chanter. Il pleut comme au temps de Virgile, comme au temps de Bertholompier.
Et pour terminer, le rire de Théo.
Oh petites, les petites, petites, petites fourmis. Oh, l'orchidée sous la fenêtre de Haroun Taziev sur l'île Saint-Louis. Oh, le désert aux cailloux noirs du Haut-Pérou. Et désert, le désert de nos cœurs. Oh, luisant, le vert luisant. Chaque soir, il éclaire le chemin de nuit dans le bois des élous. Oh, merveille. Tous mes merveilles. Oh, les minuscules débris de coquillages que ma minuscule fille sur plage de sable ramasse dans son tamis. Oh, oh. Comme ma main qui court sur l'île de la Réunion au cirque de Salazie. Et ces toiles sont faites de fils d'or, oui, des fils dorés. Les gens là-bas tissent les fils dorés de l'araignée pour en faire une robe. Oh. L'écureuil stupéfait qui me regarde dans les yeux. Oh, la météorite géante, fabuleuse, colossale de Shingeti. Oh, le lait
de brebis, mêlées de paille, de poils, de boucs et de sable. Oh le papong, 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 le seul rapace de l'île des Bourbons. Oh, oh, le fruit minuscule du badamier. Oh, le poisson qui se trémousse et saute, cabot, 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 sauteur des roches noires de Sainte-Rose aux merveilles. Oh, merveille, 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 tout, 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 tout mes merveilles. Le champignon mauve qui goûte la noisette. Oh, la cigogne qui fait son nid à Tanger sur la cime du minaret. Oh, merveille, merveille, tout, 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 mes merveilles. Oh, la feuille de l'arbre à bérose et qui sent la bérose. Oh, la feuille de l'arbre à cannelle et qui sent la cannelle. Oh, la fleur d'ylang, d'ylang et la fleur du bougainvillier. Oh, fleur, 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 la fleur, la fleur, tout, toutes les fleurs. Oh, l'écorce de l'arbre qui ressemble à une immense feuille de papier où toi, toi, tu écriras les mouvements de ton âme. Oh, merveille, 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 tout, tout. Oh, les éphémères, nuages d'éphémères s'écrasent cette nuit sur l'écran de l'ordi. Minuscules éphémères, les plus anciens insectes de notre monde, tu sais. Pendant 3 ans, elles vivent à l'état de larves, et puis le temps d'une demi-heure, leurs ailes ont enfin éclos. C'est la nuit, et en nuages de milliers d'éphémères, elles s'écrasent sur l'écran de l'ordi. Elles perdent leurs milliers d'ailes, et on passe le balai par terre pour ramasser tapis d'ailes. Et moi, je me sens pareil aux tapis d'éphémères qui ont perdu leurs ailes en se cognant à la lumière. Oh, oh, merveille, oh, merveille, merveille, tous mes merveilles. Un jour, j'étais perdue dans le désert, comme une panne, oui, une panne à la Saint-Exupéry. J'essayais moi aussi de réparer mon moteur, là, perdue dans le désert. Un homme petit, barbu, s'est approché de moi. Émerveille-toi. « Émerveille-toi », il m'a dit ça. Je l'ai regardé, mais bien sûr, c'était Théo. Théo. Théodore. Mo. Théodore. Mo. 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 No. L'homme des déserts et des grandes traversées, grand vieillard de l'humanité, l'homme ridé d'humilité. « Émerveille-toi », il m'a dit ça. Et puis il est parti. Il a continué sa route de son pas lent qui avait croisé mon désert immobile. Je me suis relevée. J'ai essayé de mettre mes pas dans ses pas, aux empreintes fragiles du désert. C'est lent. C'est lent. C'est très lent. Un si vieil homme qui traverse le sable.
C'est ainsi, avec Théodore Monod en quelque sorte, qu'on termine cette émission en son 3D et en poésie, et avec Laurence Vielle et Théo Girard. Laurence Vielle vous a donné quelques dates à l'instant. On les met sur franceculture.fr, évidemment. Anne-Jeanne Chaton, qui était l'invitée de la première partie de l'émission, accompagne son livre. Elle regarde passer les gens sur diverses scènes régulièrement. Et il y a aussi l'opération radio à la Fondation Louis Vuitton de temps en temps. La prochaine fois, c'est début avril. Elle regarde passer les gens. C'est un livre, hein, on l'a dit. C'est paru chez Vertical. Supersonic, c'est préparé et coordonné par Inès Debrune et réalisé par Véronique Lamandour. Au son 3D, ce soir, il y avait Pierre Quintard, Pierrick Charles et Philippe Mercher.
Liberté sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom.